Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon, à ce micro au sommaire de cette édition du lundi 15 juillet 2024. Les Rwandais ont voté ce lundi pour la présidentielle et les législatives, des scrutins où la victoire semble promise au chef de l'État, Paul Kagame.
J'attends que vraiment on constate que la population rwandaise, le peuple rwandais, est prêt à réaliser une alternance politique à la tête du pays.
Compte rendu de la journée électorale dans la partie magazine, au Kenya, un homme avoue les meurtres de 42 femmes. La Gambie préserve l'interdiction de l'excision malgré les pressions. L'ancien président Donald Trump participe à la convention républicaine qui s'ouvre aujourd'hui, deux jours seulement après avoir survécu à une tentative d'assassinat. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la Minute Eco. Pour l'instant, le journal. Les Rwandais ont voté aujourd'hui pour la présidentielle et les législatives. La présidentielle oppose les trois mêmes candidats qu'en 2017. Les 2433 bureaux de vote ont fermé à 15h GMT. Le point avec Eric Manirakiza.
9 millions de Rwandais étaient appelés aux urnes. Le président Paul Kagame a voté au milieu de la journée dans un bureau de la capitale Kigali après avoir fait la queue. Le dépouillement a commencé dès la fermeture des bureaux de vote. Des résultats partiels seront communiqués au fur et à mesure du dépouillement jusqu'à l'annonce de résultats provisoires le 20 juillet, a indiqué la commission électorale. Les résultats définitifs seront proclamés le 27 juillet. La commission électorale a invalidé la candidature de l'opposante Diane Nguigara en raison de documents non conformes. Deux autres figures d'opposition, Victoire Ingabire et Bernard Ntaganda, n'ont pas non plus eu la possibilité de se présenter à la présidentielle en raison de condamnations passées. Dans un communiqué, Amnesty International a dénoncé les sévères restrictions aux droits de l'opposition. Pour la première fois, la présidentielle est couplée avec les législatives où 589 candidats briguent les 80 sièges de la Chambre des députés. Les électeurs en éliront 53 directement, les 27 autres sièges sont réservés par quota aux femmes, aux jeunes et aux handicapés.
La justice française a suspendu l'arrêté d'expulsion d'Innocent Moussa Biyemana, un Rwandais poursuivi pour sa possible participation au génocide au Rwanda en 1994. Le tribunal administratif de Dijon a estimé qu'un doute sérieux était posé quant à la légalité de l'arrêté d'expulsion car le requérant ne représente pas une menace grave à l'ordre public et a suspendu donc l'arrêté. La police kenyane a annoncé aujourd'hui avoir arrêté un tueur en série psychopathe qui avoue avoir tué 42 femmes après la découverte de 9 corps mutilés dans une décharge de la capitale Nairobi. Jacques Aristide.
Colin Sadjoumeissi Kalusha a été interpellé dans la matinée devant un établissement où il était venu assister à la finale du championnat d'Europe de football qui opposait l'Espagne à l'Angleterre hier soir. L'homme de 33 ans a avoué avoir attiré et tué 42 femmes avant de déposer leur corps dans la décharge de Mukuru à Nairobi, a indiqué le chef de la direction des enquêtes criminelles, Amin Mohamed. Selon lui, le suspect était en train d'attirer une autre victime au moment de son arrestation dans la capitale kényane. Nous avons affaire à un tueur en série psychopathe qui n'a aucun respect pour la vie humaine, a poursuivi Amin Mohamed en qualifiant Colin Sadjoumeissi Kalusha de vampire. Il a été retrouvé après l'analyse du téléphone portable d'une des victimes, dont l'âge va de 18 à 30 ans. Les meurtres se seraient produits entre 2022 et le 11 juillet 2024. Colin Sadjoumeissi Kalusha, chez qui une machette a été saisie, a affirmé que sa première victime était sa femme. Un deuxième suspect a été arrêté avec l'un des téléphones d'une des victimes, encore déclaré Amin Mohamed, sans en dire davantage.
Le président kenyan William Ruto a accusé aujourd'hui la fondation Ford, basée aux États-Unis, de favoriser l'anarchie et de financer les manifestations antigouvernementales qui ont secoué le pays le mois dernier. Les manifestations de rue se sont calmées récemment, mais des militants ont appelé à de nouvelles actions demain mardi. L'excision et les mutilations féminines restent proscrites en Gambie, malgré les pressions des ténors tenant proclamé de la tradition. Le Parlement a rejeté lundi une proposition de loi qui aurait levé l'interdiction en vigueur depuis 2015 sur ces pratiques après des mois de controverses. Les députés ont rejeté tous les amendements proposés au texte de 2015 qui auraient dépénalisé la pratique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, des dizaines de milliers de partisans de Donald Trump sont présents aujourd'hui à Milwaukee, dans le Wisconsin, pour la convention du Parti républicain. Cette grand-messe historique sous haute tension est bouleversée par la tentative d'assassinat de l'ex-président samedi. Les détails avec Nani Talani.
Des milliers de policiers sont déployés dans les rues. Des périmètres entiers du centre-ville sont clôturés par de grandes grilles métalliques et quadrillées par des agents du service secret, la police d'élite, qui fait l'objet de vives critiques pour ne pas avoir bien protégé Donald Trump lors de son meeting en plein air samedi. Avec ses plus de 50 000 participants, la convention promettait déjà d'être un événement ultra sécurisé. Les thèmes majeurs de la convention seront le pouvoir d'achat, l'immigration, la criminalité et la sécurité garantie par une Amérique forte. Donald Trump devrait dévoiler le nom de son colistier qui prononcera un discours mercredi. Puis jeudi, Trump sera désigné candidat officiel des Républicains à la présidentielle de novembre. « Je ne devrais pas être ici, je devrais être mort », a affirmé au New York Post Donald Trump, 78 ans, accueilli à Milwaukee, avec une ferveur renouvelée par ses militants qui ont failli perdre leur héros samedi lors d'un meeting en Pennsylvanie. Il a été blessé à l'oreille et évacué, la joue ensanglantée, après des tirs qui ont fait un mort et deux blessés graves parmi les spectateurs.
La convention va officialiser la candidature de Donald Trump à la présidentielle de novembre et cette convention se tient jusqu'au 18 juillet. Rosine Monizero.
Le premier temps fort de la convention républicaine à Milwaukee viendra sûrement dès ce lundi, après l'annonce attendue de la personne choisie par Donald Trump pour être son futur vice-président s'il remporte l'élection le 5 novembre. Il a confirmé qu'il choisirait son candidat au poste de vice-président aujourd'hui, a indiqué lundi le présentateur vedette de Fox News, Bret Baier. Après avoir échangé avec Donald Trump, trois noms reviennent en boucle. Celui de l'auteur à succès devenu élu du Congrès, J.D. Vance, du gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, et de l'influent sénateur latino de Floride, Marco Rubio. Déjà arrivé dans l'ancienne ville industrielle donnant sur le lac Michigan, Donald Trump a appelé au calme après avoir échappé à une tentative d'assassinat samedi. Malgré cela, le dense programme de la convention est maintenu. En dehors de mesures de sécurité renforcées hors du périmètre, il n'y aura pas un seul changement au planning, déclare un proche de Donald Trump qui co-préside la convention.
La juge au procès de Donald Trump pour rétention de documents classifiés après son départ de la Maison-Blanche a annulé aujourd'hui l'ensemble de la procédure. Dans cette décision qui représente une immense victoire pour l'ex-président, la juge Aline Cannon fait droit à une demande de ses avocats et annule donc la procédure instruite en Floride. M. Trump appelle aussi à l'abandon de toutes les poursuites contre lui après la décision de cette juge. La semaine qui s'ouvre s'annonce décisive en France, toujours à la recherche d'un Premier ministre et d'un gouvernement après des élections législatives anticipées qui ont divisé l'Assemblée nationale en trois blocs incapables pour l'heure de constituer une majorité. Le Parlement sera installé jeudi avec l'élection à la présidence de l'Assemblée nationale et la formation des groupes qui permettront de mesurer le rapport de force entre le bloc de gauche du nouveau Front républicain, le camp présidentiel et le Rassemblement national. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a ouvert pour la première fois la porte à des pourparlers de paix avec la Russie, assurant aujourd'hui être favorable à la présence de Moscou à un prochain sommet de paix. Un premier sommet sur la paix en Ukraine avait été organisé mi-juin en Suisse, avec plusieurs dizaines de pays représentés, mais la Russie n'avait pas été conviée et la Chine, alliée de Moscou et poids lourd diplomatique, avait décidé de ne pas y participer. Et le taux de vaccination des enfants dans le monde stagne et n'ont toujours pas retrouvé leur niveau d'avant la pandémie de Covid. C'est une alerte de l'ONU ce lundi. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Nani Talani.
Les négociants risquent de perdre au moins $1 milliard sur les produits dérivés du cacao, car le Ghana, deuxième producteur mondial, n'a pas livré de fèves cette année dans un marché en hausse, ont déclaré des sources à Reuters. Les prix mondiaux du cacao ont grimpé cette année suite au mauvais temps, à la maladie des fèves, la contrebande et l'extraction illégale d'or qui ont réduit la production et le volume de fèves disponibles au Ghana. Au Nigeria, la participation de la compagnie pétrolière publique ENPC dans la raffinerie Dangote a été ramenée de 20% à 7,2% après le non-paiement du solde du financement dû, a déclaré Aliko Dangote, le propriétaire de la raffinerie. La ENPC est aux prises avec une dette croissante envers les fournisseurs d'essence, tandis que le coût des subventions à l'essence a encore réduit ses réserves de liquidités. Pour terminer, en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a réaffirmé ce lundi l'engagement de son pays, dépendant du charbon, à aller vers les énergies renouvelables, tout en prévenant que cela ne devait pas se faire au détriment de l'emploi. L'économie la plus industrialisée d'Afrique est l'une des plus grandes émettrices de gaz à effet de serre au monde.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Rebondissement dans l'affaire de suspension du capitaine des Aigles du Mali.
Oui, certains des coéquipiers d'Amari Traoré, suspendus par la Fédération malienne de football, lui apportent leur soutien. Nous retrouvons à Bamako notre correspondant Siaka Traoré.
Ce ne sont pas des moindres. Il s'agit de Boubacar Kiki Kouyaté, défenseur, Mohamed Camara et Amadou Aïdara Doudou, tous des milieux de terrain. Ils ont clairement annoncé sur les réseaux sociaux qu'ils portent à la connaissance de la Fédération malienne de football qu'ils se mettront en retrait de la sélection nationale jusqu'à la levée de la suspension de leur coéquipier et capitaine des Aigles. L'on se rappelle, Amari Traoré avait, au mois de juin dernier, dénoncé sur les réseaux sociaux ce qu'il a qualifié de mauvaise gouvernance du football malien. Et d'ajouter, si la situation ne change pas, lui et ses coéquipiers se réserveront le droit de ne pas honorer la sélection nationale pour les prochaines échéances. Des propos qui lui avaient valu une demande d'explication de la part du comité exécutif de la fédération. Hamari ne s'était pas présenté. Ensuite, toujours au mois de juin, plus précisément le 27, la fédération lui a suspendu à titre conservatoire. Cette suspension a été diversement appréciée par le public sportif malien. Voilà que le vendredi 12 juillet 2024, les réseaux sociaux sont inondés de messages des trois joueurs de l'équipe nationale précédemment citée. La question qu'on se pose, jusqu'où ira ce bras de fer entre fédération et joueurs de l'équipe senior? Les supputations vont bon train chez les supporters des Aigles du Mali, surtout à l'approche des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 en septembre prochain. Sans nommer la crise au sein de l'équipe nationale A de football, le ministre malien des Sports, Abdoulkassim Fomba, a pour sa part tenté de calmer les ardeurs lors d'une cérémonie de l'Association des journalistes sportifs du Mali ce samedi à Bamako. À en croire le premier responsable du département des sports, il entend initier dans les meilleurs délais une table ronde avec les anciens dirigeants et autres acteurs de football pour en débattre afin de trouver une solution. Siaka Traoré, Bamako, pour VOA Afrique.
La Copa América a rendu son verdict avec le sacre de l'Argentine.
Une finale de Copa América 2024, tristement célèbre pour des faits extra-sportifs avant le début de la rencontre. En effet, le match tant attendu entre l'Argentine et la Colombie a débuté avec 1h22 de retard à Miami, en Floride, après des scènes de chaos devant le stade dans l'après-midi dues à des problèmes d'accès pour les supporters. Des centaines de fans, principalement colombiens, ont tenté d'entrer dans le stade sans biais. Selon les organisateurs, n'empêche, le match a quand même eu lieu et l'Argentine a dominé la Colombie 1-0 après prolongation.
L'Euro aussi a rendu son verdict avec le sacre de l'Espagne.
L'Espagne est entrée dans l'histoire de l'Euro en étant la première nation à obtenir un quatrième sacre continental, brisant le rêve de l'Angleterre. Battue 2-1 et toujours sans trophée après 58 ans d'attente, la malédiction s'est poursuivie pour les pauvres Three Lions en quête d'un titre depuis la Coupe du Monde en 1966, organisée sur leur sol. Tout le mérite est pour la Roja qui, dans un tournoi globalement très terne, a été la seule formation à produire du spectacle forte de son formidable potentiel offensif. La Roja s'impose ainsi une quatrième fois dans un championnat d'Europe après 1964, 2008 et 2012.
Page de sport VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le président Joe Biden s'est exprimé depuis le bureau ovale, exhortant les Américains à s'unir et à éviter la violence politique après la tentative d'assassinat de son rival Donald Trump survenu la veille. Monsieur Trump en route vers la convention politique où il devrait décrocher. L'investiture républicaine a lancé des appels similaires, signe que les deux hommes craignent des troubles à l'approche de l'élection de novembre. C'est un reportage d'Anita Powell, le récit est de Rosine Monezero.
C'est le moment qui a changé la course à la présidence américaine de 2024 et peut-être le cours de l'histoire. L'ancien président Donald Trump s'est levé quelques secondes après qu'un tireur a tenté de lui ôter la vie lors d'un rassemblement samedi. Mais comme l'a reconnu le président Joe Biden dimanche depuis le bureau ovale, il ne s'agit pas d'une simple blessure superficielle pour l'Amérique. Il a appelé à l'unité et rappelé aux Américains que leur pouvoir passe par le bulletin de vote et non par la balle.
Mes chers compatriotes, je veux vous parler ce soir de la nécessité de faire baisser la température dans notre politique et de nous rappeler que même si nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des voisins, des amis, des collègues, des citoyens et surtout des concitoyens américains. Nous devons être solidaires. La fusillade d'hier lors du rassemblement de Donald Trump en Pennsylvanie nous invite tous à prendre du recul. Nous devons faire le point sur notre situation et sur la manière dont nous allons avancer à partir d'ici.
Donald Trump a également appelé à l'unité après la fusillade. Il est arrivé à Milwaukee, dans le Wisconsin, pour la Convention nationale républicaine, où il devrait être désigné comme le candidat du parti à la présidence. Les analystes estiment que le défi de Trump face à la mort aura un effet.
Cela aura un impact énorme sur cette élection et sur notre politique plus largement. L'histoire suggère que nous allons probablement avoir un effet de ralliement autour de Trump où ceux qui étaient dans son camp seront encore plus dans son camp. Et puis ceux qui ne peuvent tout simplement pas supporter la violence politique, ceux qui sont confrontés à la réalité de la dangerosité de notre rhétorique politique et qui voient cette manifestation de violence se dérouler sous nos yeux, cela aura un impact sur cette élection.
Les partisans de Trump affirment que cette scène sinistre a peut-être appris à la nation quelque chose d'important, que les institutions comptent plus que les individus qui les dirigent.
C'était à la fois un jour vraiment terrible pour la démocratie américaine, mais à bien des égards, c'était aussi un grand jour. Je pense que vous souteniez le président Trump ou que vous ne le souteniez pas, je pense que ce que tout le monde devrait retenir de cela, c'est que la démocratie américaine est beaucoup plus grande et beaucoup plus résiliente que ce que beaucoup de gens lui accordent.
Certains analystes disent qu'ils craignent d'autres problèmes lorsque les deux principaux partis tiendront leur convention cet été.
J'ai affirmé ailleurs qu'il était très probable que nous assistions à des violences politiques dans tous les domaines au cours de ce cycle électoral. De toute évidence, il s'agit de l'incident le plus grave jusqu'à présent. Mais je ne pense pas qu'il y ait la moindre raison de croire que ce sera la dernière violence à laquelle nous assisterons.
Aujourd'hui, les deux hommes utilisent leur plateforme pour appeler les Américains à éviter la violence et à s'unir. Mais la question qui se pose aux Américains, qui doivent encore choisir l'un d'entre eux pour diriger la nation, est la suivante. S'unir derrière qui ?
L'ancien président Donald Trump donc participe à la Convention nationale républicaine quelques jours seulement après avoir survécu à une tentative d'assassinat. Caroline Presutti, correspondante de la VOA à Washington, se trouve à Milwaukee dans le Wisconsin et nous explique comment ses partisans, après le choc de samedi, sont aujourd'hui revigorés. La narration est de Yakuba Woodrogo.
Des prières pour l'ancien président Donald Trump, qui a survécu à une tentative d'assassinat samedi et s'est envolé pour la Convention nationale républicaine dimanche. Hilario Di Leon est le président du Parti républicain du comté de Milwaukee.
The whole campaign has changed.
Toute la campagne a changé. Tout le message a changé. Quelqu'un essaie de tuer notre candidat.
Un Donald Trump, droit dans ses bottes, a publié sur Truth Social qu'il ne peut pas permettre à un assassin potentiel de le forcer à changer son programme. Amy Diklou, déléguée du Missouri.
Chaque fois qu'il lui arrive quelque chose, j'ai l'impression que cela consolide encore plus sa victoire. Il a en quelque sorte atteint un statut légendaire.
Dans un hôtel à l'autre bout de la ville, la délégation de Caroline du Sud parlait de la journée de samedi et de la détermination qu'elle avait acquise. Après le choc immédiat d'avoir été touché à l'oreille, Trump a levé le poing en l'air et a dit « combat ». Yvonne Julian est la présidente du Parti républicain du comté de Greenville.
L'image emblématique avec le sang qui coule sur son visage, le ciel bleu, le drapeau américain, tout ça va continuer à vivre.
Le tireur a utilisé un fusil de type AR, souvent utilisé par les auteurs de massacres. Mais les délégués affirment que l'utilisation de ce fusil sur leur candidat ne change pas la position du Parti républicain sur le contrôle des armes à feu. Becky McLaughlin est déléguée en Caroline du Sud.
Ce n'est pas le danger de l'arme qui est en cause. C'est ce qui se passe quand l'arme tombe entre les mains de la mauvaise personne.
Le président Joe Biden a rappelé dimanche aux Américains que le pays règle ses différends par le vote et que la violence n'est jamais la solution. Il a ordonné aux services secrets américains de revoir leurs mesures de sécurité lors de la convention républicaine déjà placée sous haute surveillance. Deborah Manning est déléguée nationale à la convention.
Nous devons revenir au bon sens. Nous devons revenir en arrière et arrêter ce qui se passe.
En raison de cette récente tentative d'assassinat, un délégué a affirmé que le thème de la convention de cette année devrait être « Rendre l'Amérique sûre à nouveau ».
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Plus de 9 millions de Rwandais se sont rendus aux urnes ce lundi pour les présidentielles et législatives, opposés au président sortant ultra favori Paul Kagame, deux autres candidats, Philippe Mpayimana et Franck Habineza. Ils se déclarent tout de même optimistes. Le point avec notre correspondant à Kigali, Jean Damasen Manishimwe.
Des décorations particulières donnant l'impression d'une grande fête s'observaient sur les sites électoraux à travers le pays. Dans le calme, de longues files d'attente se manifestaient déjà avant l'ouverture des bureaux de vote à 7 heures locales, soit 5 heures temps universel. Le candidat indépendant Philippe Mpayimana était au camp Kigali en plein centre de la capitale. Candidat malheureux en 2017, Mpayimana a émis le vœu d'une alternance politique.
Oui, c'est ma deuxième participation aux élections présidentielles. Et ça doit être différent. J'attends la différence. J'attends l'évolution. J'attends un score différent. J'attends que vraiment on constate que la population rwandaise, le peuple rwandais, est prêt à réaliser une alternance politique à la tête du pays. Et si c'est pas aujourd'hui, il faut au moins qu'on voit que c'est en cours de venir.
Ce sentiment d'optimisme a été affiché aussi par le président du Parti des Verts, Franck Habineza, qui avait aussi brigué la présidentielle en 2017.
À vrai dire, notre période électorale a montré que la démocratie évolue au Rwanda. Nous avons fait le tour du pays, la population nous a manifesté sa joie, elle nous a promis de voter pour nous. C'est vraiment différent des élections de 2017. Je souhaiterais que notre pays ne retourne pas en arrière. C'est vraiment satisfaisant. Et surtout, la commission électorale a tout bien préparé. Je suis optimiste à 55%. J'espère remporter la présidentielle et obtenir au moins 20 sièges au Parlement.
Aux environs de 13 heures locales, le président Paul Kagame a lui aussi voté à Kigali, près de son domicile. Au terme de sa campagne électorale, le président Kagame avait déclaré que sa victoire est assurée. Ces élections sont suivies par différentes missions africaines d'observation, notamment la Communauté des États d'Afrique de l'Est, l'Union africaine et la Conférence internationale de la région des Grands Lacs. Moses Frank Moyo représente la Conférence internationale de la région des Grands Lacs.
Rwanda is a member of the Great Lakes region.
Le Rwanda est membre de la région des Grands Lacs. Le rôle du Rwanda dans la stabilisation de la région est essentiel. Sa stabilité dit beaucoup pour tous les pays de la région. C'est pourquoi nous nous sommes mobilisés, non pas pour interférer dans ces affaires internes, mais pour nous assurer que ces élections sont libres et transparentes.
D'après la commission électorale, les premières tendances ne seront pas connues avant 22 heures locales, soit 20 heures temps universel. Jean Thomas Manifimé pour VOA Afrique, Kigali.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
Le Bénin va-t-il se retrouver isolé dans la sous-région ouest africaine? Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition au Burkina Faso, a lancé de graves accusations contre le pays le 11 juillet dernier. Des allégations qui s'inscrivent dans un contexte régional difficile, marqué par des suspicions similaires agitées par d'autres pays du Sahel. Comment les Béninois vivent cette crise de plus qui se profile à l'horizon? La réponse avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Le Bénin serait devenu un danger pour ses voisins. À en croire les déclarations du président burkinabé, le Bénin abrite deux bases militaires françaises. Pour Fadel, étudiant en relations internationales, le Burkina Faso n'a qu'à exposer les preuves dont il dispose.
En vrai, ce sont des déclarations sans fondement, puisque jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'il n'étaye par des preuves tangibles ce qu'il a avancé, ce sont des affabulations. Donc moi, je pense que ces propos n'ont pas lieu d'être, parce que le Bénin, à ce que je sache et à ce qui a été dit dernièrement par les autorités étatiques, il n'y a pas de base militaire française au Bénin. Moi, je pense que ce ne sont pas des propos vérifiés.
Le capitaine Ibrahim Traoré a précisé que ces bases serviraient non seulement à l'équipement et à la formation de groupes qualifiés de terroristes, mais aussi à leur fournir des soins médicaux. Pour Alphonse Dorigo, le Burkina Faso monte la tension avec ce type de déclaration.
Je pense que c'est un discours heurtant, c'est un discours qui ne consolide pas, c'est un discours de tension, à mon humble avis.
Ils veulent qu'on vous coopère avec la Russie. Est-ce que le Bénin s'en est opposé? Non, aucunement. Donc, chacun a son coopérant, chacun a son partenaire d'affaires, et puis ça passe.
Pour Sylvanus Tantan, les pays sahéliens veulent tenir le Bénin pour responsable de leurs difficultés sur le plan sécuritaire.
Les pays sahéliens en ont après le Bénin, parce que si après le Niger, c'est le Burkina qui nous attaque, il faudra s'attendre à ce que le Mali, ou bien tout autre pays encore, nous attaque. Et cette histoire de base militaire, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et si le président burkinabé juge que Bénin abrite vraiment une base militaire française ici, je pense que c'est à eux de nous démontrer vraiment qu'il y a une base militaire ici. Il a bien dit qu'il a les preuves. Donc, il n'a qu'à sortir les preuves pour que nous sachions qu'il y a vraiment des militaires français ici sur le sol béninois.
Le secrétaire général et porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Léandre Roubédi, a de son côté répondu aux accusations du président burkinabé.
Il n'y a aucune base militaire française au Bénin, aucune. À Kandi, nous avons des instructeurs français, belges, américains qui viennent renforcer les capacités des nôtres. Je suis formel. Nous n'avons aucun accord de coopération militaire avec la France qui institue une base militaire française au Bénin. Il n'y en a pas.
En visite officielle au Bénin, il y a quelques mois, le chef d'état-major des armées, le général d'armée Thierry Buka, a été formel sur la question.
Non, il n'y a pas de base militaire française au Bénin. Il n'y a pas de mission militaire française permanente au Bénin. Et il n'y a aucune velléité de l'armée française d'installer une base ici permanente. Et il n'y a pas de demande des forces armées béninoises qu'il y ait des missions permanentes qui stationnent ici. Et notre coopération, elle fonctionne très bien sur ce mode-là.
Pour son homologue béninois, le général Fructueux Baguedi, cela n'est même pas envisageable.
La réponse est non. Parce qu'une base militaire, ça se décide à deux. Le Bénin n'a pas reçu de demande, le Bénin n'a pas fait de demande. Non, il n'y a pas de base militaire au Bénin. Non, il n'est pas envisagé la mise en place d'une base militaire au Bénin.
De Cotonou, je n'ai plus à attendre pour VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bangui sur 101.7 FM. Clédou FM, Bamako. Golf FM, Cotonou. Al-Faïda FM, Kaolack, Sénégal. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.